Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Des policiers qui filment l'attaque de leur voiture, c'était à Lyon sur l'A7 hier en marge de la manifestation des Gilets jaunes. La séquence est assez rare et tourne en boucle sur les télés. L'un des policiers a raconté la scène, nous l'entendrons. C'est une violence parmi tant d'autres qu'Éric Ciotti ne veut plus voir. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes demande sur France Inter qu'on interdise les manifestations de samedi prochain. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, répond qu'il n'en a pas le pouvoir ni l'intention. En attendant, c'est dans le calme que des Gilets jaunes ont célébré sur les Champs-Élysées ce dimanche, le troisième mois de leur mouvement. Décloisonner le système de santé entre les hôpitaux et la médecine de ville, 18 maires de grandes villes, dont ceux de Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, lancent un appel à l'État et aux professionnels de la santé pour mieux travailler ensemble. Au Venezuela, l'aide humanitaire qui s'accumule aux frontières, toujours bloquée par l'armée de Maduro. Son rival Guaido lui donne 7 jours pour se mettre en conformité avec la Constitution. En Ligue 1 de football, Lille, stoppée dans son élan par Montpellier 0-0, le même score pour Caen face à Strasbourg, Bordeaux, Toulouse 2-1, Reims, Barennes 2-0, ce soir le PSG à Saint-Étienne. Dans le top 14, La Rochelle l'emporte à Grenoble 28-21, Toulouse reprend la tête en battant le Racing 34-29, et de 3 pour Hirscher en slalom, l'Autrichien remporte son troisième titre mondial en devançant deux de ses coéquipiers peintureaux. Termine quatrième, le journal des sports dans un instant, c'est avec Jérôme Val. Et puis la météo, un peu de pluie demain dans le quart nord-ouest, mais du soleil partout ailleurs et des températures qui restent au-dessus des moyennes saisonnières.
France Inter.
Un dimanche en jaune à Paris, c'était inédit au lendemain de leur 14e samedi de mobilisation. Les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous pour fêter le troisième mois du mouvement, lancé le 17 novembre. Plusieurs centaines d'entre eux ont donc à nouveau descendu les Champs-Élysées dans le calme. On va y revenir. Rien de comparable en tout cas avec les événements d'hier et notamment l'attaque d'une voiture de police à Lyon sur l'A7. Attaque filmée de l'intérieur par une policière dont on entend d'ailleurs la peur. Les images ont tourné en boucle toute la journée, on y voit des manifestants lancer des projectiles ou sauter sur le capot. Violence insupportable pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui dénonce des hordes sauvages. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête. L'un des policiers pris à partie dans la voiture a raconté la scène à France Info.
On a été appelé pour une fermeture impromptue de l'autoroute suite à la manifestation, c'est-à-dire que on a été débordé par les manifestants et pour les protéger, il fallait couper une bretelle d'autoroute et on s'est retrouvé dans le flot de circulation et donc impossible d'avancer. On a été pris à partie par les manifestants et de là, la situation de leur côté a débordé, on a été caillassé. La vidéo parle d'elle-même. Vous entendez les pavés tout au long de cette séquence, donc avec toutes les vitres du fourgon brisées. Il y avait notamment une personne qui est venue avec un objet, donc qui a frappé le fourgon. Une autre personne qui est venue directement contre le fourgon, qui a sauté sur le capot du fourgon. Et la situation était très tendue, voilà. La majorité sont cagoulés, masqués, donc on sait très bien que c'est pas des gilets jaunes. Après, on fait pas d'amalgame, on est caillassé, on s'en va.
Parmi les violences de la journée d'hier, on n'oublie pas les dégradations multiples commises au Mans, notamment dans le local d'un député de La République En Marche et sur le commissariat. 10 personnes ont été interpellées hier au soir et dans la nuit. À Paris, c'est l'agression verbale d'Alain Finkielkraut qui aura surtout choqué les esprits. Agression dénoncée par la majeure partie de la classe politique. L'écrivain philosophe qui dit avoir senti contre lui une haine absolue a choisi de ne pas porter plainte, mais le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique liée à l'origine, la race ou la religion. Le CRIF dénonce l'expression d'un antisémitisme d'origine islamo-gauchiste. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'un suspect a été identifié. Alors comment éviter toutes ces violences ou dérapages devenus quasiment systématiques? Eh bien, ce serait très simple, si l'on en croit Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, invité de questions politiques sur France Inter à midi, demande qu'on interdise les manifestations samedi prochain.
Ce mouvement, il a été dévoyé par la violence. 1400 représentants des forces de l'ordre blessés, plus de 2000 manifestants blessés, ça veut dire 3500 blessés, 11 morts. On n'a jamais eu un tel bilan en France métropolitaine depuis la guerre d'Algérie. Cette violence, elle est insupportable, inacceptable, et il faut aujourd'hui qu'elle s'arrête. On ne peut plus laisser tolérer ça. aujourd'hui, je dis que ce mouvement doit arrêter ces blocages, ces manifestations. Il y a des voies de revendication. 14 samedis de violence, c'est beaucoup, c'est trop. Je demande qu'on interdise les manifestations samedi prochain.
Éric Ciotti avec Ali Badou sur France Inter. C'est une proposition qui n'a aucune chance d'être suivie des faits. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a déjà répondu qu'il n'en était pas question.
Il n'est pas dans l'autopouvoir, ni dans la volonté du ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'État de mettre un terme aux manifestations. Au contraire, nous sommes là pour garantir la liberté d'expression. Nous, notre rôle, c'est de mettre un terme aux violences chaque fois qu'il y en a. Et donc, c'est ce que nous faisons, samedi après samedi, méthodiquement, grâce à l'engagement des forces de police et de gendarmerie. Et bien évidemment, nous attendons l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives qui nous permettront d'écarter un certain nombre d'individus casseurs que l'on voit dans ces manifestations. Chaque fois qu'il y a des exactions sur des commerces, nous intervenons pour éviter des pillages. Et je rappelle que personne dans ce pays, après avoir commis des exactions lors de manifestations, ne rentre impuni.
Laurent Nunez sur BFM. Ce dimanche, rien de comparable. Donc, on l'a dit, ils ont été à peu près 1500 gilets jaunes à défiler dans le calme sur les Champs-Élysées pour fêter le troisième mois du mouvement. Delphine Evenou, une manifestation de type presque classique.
Sur la page Facebook de l'événement du jour, les organisateurs avaient déjà tranché alors que le débat anime les gilets jaunes depuis plusieurs semaines. Manifestation déclarée en préfecture. Claude, ingénieur parisien à la retraite, est un peu déçu.
Ça enlève un peu de son panache, quoi. C'est très récupéré, là.
Ça vous embête ?
Bah oui, parce que c'est pas l'esprit gilet jaune, quoi. Alors sinon, on rentre dans des cases et tout est codifié, prévisible à l'avance.
Et l'on voit dans le cortège des drapeaux de la CGT, des gilets flanqués d'autocollants du NPA et contrairement aux manifestations jaunes du samedi, des slogans entonnés sur des airs bien connus des mobilisations syndicales. Pour Myriam Batelière, aucun problème.
C'est les syndicats qui négocient nos retraites, les augmentations de salaire, les augmentations du SMIG, on a besoin d'eux.
Jusqu'où pousser le pragmatisme alors que le mouvement des gilets jaunes se revendique depuis le début apolitique dans tous les sens du terme, il y a une ligne jaune selon Gaylor.
Les syndicats eux-mêmes nous dérangent dans le sens où la tête des syndicats, c'est quand même assez corrompu. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est le drapeau en lui-même. Mais celui qui porte le drapeau ne me dérange pas parce qu'en fait, c'est un syndiqué. Eux, ils défendent les ouvriers, les travailleurs. Nous, on défend tout le reste. Donc, ils sont bienvenus avec nous.
Mais seulement, conclut son voisin de cortège, seulement s'ils finissent un jour, proche si possible, par lâcher leur étiquette pour ne devenir que gilets jaunes.
Seul incident notable de l'après-midi, une altercation entre certains manifestants et Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement qui voulait présenter une liste RIC, Rassemblement d'initiatives citoyennes aux européennes, avant d'y renoncer. Elle a dû être exfiltrée de la manifestation. Hidalgo, Godin, Colomb, Juppé et d'autres, 18 maires de villes grandes ou moyennes qui signent un texte en commun, c'est assez rare, c'était ce matin dans le JDD, un appel à mieux lutter contre les inégalités de santé qui ne sont pas, selon les signataires, une fatalité, à condition de s'associer activement l'État, les collectivités et les professionnels de santé pour, disent-ils, sortir d'un déterminisme social indigne d'un pays comme la France. Ce qu'explique au téléphone d'Augustin Arrivé, le maire d'Orléans, Olivier Carré.
On sait que l'hôpital ne va pas très bien, qu'on peut toujours manquer de moyens, mais on a aussi une pénurie de médecins en ville, dans beaucoup de villes, celles qui ont des CHU, celles qui n'en ont pas. Et ça vient d'une certaine inadéquation de la façon dont la santé est organisée aujourd'hui, où elle est très cloisonnée, par exemple, entre la médecine en établissement, qu'elle soit hospitalière ou dans les cliniques, la médecine de ville. Or, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils ont simplement besoin qu'on les suive. Ils vont à l'hôpital, ils bénéficient de soins en restant de moins en moins longtemps à l'hôpital, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire des traitements qui sont moins impactants. Mais derrière, sinon pas le suivi avec un médecin de ville, bien, ils se sentent souvent désemparés, ils ont raison. Ce qu'il faut surtout, c'est décloisonner. C'est surtout ça qui est l'appel, c'est de dire que les collectivités sont prêtes à s'engager dans un rendez-vous avec l'État, avec les professionnels de santé, pour qu'ensemble, on construise une chaîne justement de sensibilisation, mais pas seulement.
Le journal de 19h sur France Inter.
Au Venezuela, le risque d'une épreuve de force s'intensifie dans les régions frontalières où l'aide humanitaire s'accumule. Des milliers de volontaires se disent prêts à la réceptionner à la demande du président autoproclamé Guaido. Une aide que refuse le toujours président Maduro, dont l'armée restée fidèle empêche le passage. Benjamin Delisle.
Le 23 février, Juan Guaido assure qu'une avalanche humanitaire va déferler sur la frontière vénézuélienne. L'opposant assure avoir réuni 600 000 personnes partout au Venezuela pour acheminer l'aide humanitaire bloquée à la frontière vers les personnes qui en ont le plus besoin. La pression monte aussi à l'extérieur du Venezuela sous l'impulsion des États-Unis. Deux avions militaires américains ont livré des dizaines de tonnes d'aide supplémentaire hier à Cúcuta en Colombie. Demain, l'aide humanitaire devrait arriver au Brésil dans la région de Roraima et ce mardi, c'est l'île de Curaçao qui devrait recevoir plusieurs cargaisons en provenance de Miami. Malgré cette pression qui s'accentue, Nicolas Maduro reste intransigeant. Il estime que l'aide humanitaire est un prétexte pour justifier une intervention militaire américaine et colombienne. Tout dépend donc des soldats vénézuéliens postés à la frontière. Juan Guaido leur a envoyé un nouveau message hier. Vous avez 7 jours pour vous mettre du côté de la Constitution. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
En Haïti, le gouvernement veut tailler dans le vif. Après 10 jours de crise et la quasi-paralysie du pays, le Premier ministre annonce des mesures d'urgence, notamment la rigueur pour les administrations. Dans une allocution télévisée, il promet de retirer tous les privilèges non nécessaires aux hauts fonctionnaires, comme les frais d'essence et de téléphone, les voyages inutiles à l'étranger ou les quantités de consultants dont ils disposent. Depuis le 7 février, les manifestations se multiplient dans les quartiers les plus pauvres d'Haïti, où l'opposition a de nouveau appelé à descendre dans les rues ce dimanche. Allez, bienvenue dans l'année du cochon de terre. C'est dans le système chinois l'animal de cette année 2019, ouverte le 5 février et fêtée ce dimanche à Paris par le traditionnel défilé du Nouvel An, une date incontournable du calendrier et un rendez-vous qui se prépare de longs mois à l'avance. Reportage dans le 13e arrondissement de Paris, Léa Gage.
Perchés sur les épaules de leurs parents, les enfants en prennent plein les yeux.
Il y a vert, il y a bleu, il y a orange, il y a rouge.
Avec les arts martiaux.
Des personnes déguisées, des lions. C'est très joli.
Le grand dragon. Il y a des bruits de tambour.
Des pétards.
Ça a l'air bien la Chine.
Nicole est venue exprès, en famille, depuis les Yvelines.
Pour la petite, déjà, nous, on vient assez régulièrement, tous les 3-4 ans, et... l'ambiance. On a déjeuné chinois aussi, donc c'est sympa.
Lang Xingyang est originaire de Pékin. Depuis 12 ans, elle habite en France. Chaque année, elle vient avec son fils.
C'est très important. C'est la racine, c'est valeur de notre culture, surtout c'est une tradition.
Loin du tumulte des tambours et des cymbales, Sun a trouvé refuge dans un temple bouddhiste installé dans un parking souterrain.
Je mets l'encens et puis je prie chaque Bouddha que me porte la... Surtout la santé, et puis le bonheur dans la famille, et prospérité.
Et en attendant que toutes ces prières se réalisent...
Bonne année! 新年快乐!
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 Et la prochaine année du cochon de terre, ce sera 2079. Elle aura pourri la vie de tout un quartier ce dimanche à Paris. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte sur un chantier au début du mois et qu'il a fallu faire exploser. 1800 riverains avaient été évacués de bonne heure ce matin jusqu'en début d'après-midi. La circulation des trains, métro, RER et le trafic routier interrompu une partie de la journée. Sera-t-il à l'affiche mercredi prochain, grâce à Dieu, le film de François Ozon sur l'affaire Prena, qui fait l'objet d'un référé, a reçu le prix du jury de la Berlinale, le festival de Berlin. C'est demain que le juge, saisi par l'avocat du prêtre, rendra sa décision de reporter la sortie du film ou non. L'ours d'or de cette même Berlinale est revenu au film israélien Synonyme de Nadav Lapid, l'histoire d'un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre en France. Et puis si on aime le manga et le cinéma, eh bien on devrait aimer Alita. Alita Battle Angel à l'affiche cette semaine, un blockbuster signé Robert Rodriguez, produit par James Cameron, avec notamment Christophe Valls, que des pointures à tous les niveaux, mais pas suffisant pour convaincre Eva Bétan.
James Cameron, le créateur d'Avatar, à la production et à la réalisation Robert Rodriguez, on lui doit le formidable Sin City, les augures étaient favorables, ceux-là savent inventer des mondes. Nous sommes dans une période post-catastrophe. Vivent là quelques humains, des personnages rafistolés avec un bras ou une jambe en métal, des méchants aux formes multiples et Alita, elle a l'apparence d'une jeune fille et elle est une androïde à la force exceptionnelle. Soit, c'est le marché avec ce genre de film, on est prêt à tout admettre, encore faut-il que les concepteurs du film usent à bon escient de cette liberté que permet l'absence de réalisme. Ici, l'univers de décrépitude n'a rien d'inventif, mais surtout, il paraît vain. Quel est l'enjeu? Comment fonctionne cette société? Il semble que l'on n'ait pas pris la peine, justement, d'inventer un monde, ou même de bâtir une histoire, de donner de la consistance aux personnages, comme si le public qui lit des mangas dont ce film est tiré pouvait se contenter de ce minimum. Or, c'est toujours une erreur de prendre les enfants du bon Dieu, y compris les fans de manga, pour des canards sauvages.
Les canards sauvages qui peuvent aimer les effets spéciaux. On ne sait jamais. Alita Battle Angel, c'est le titre sur les routes.
Point route avec Calibat. 73 000 entreprises et artisans pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Des bouchons en Gironde en direction de Bordeaux, Thomas Chonner.
Oui, il fait beau et ça se ressent. Enfin, il a fait beau aujourd'hui sur les routes. Hein, pour revenir d'Arcachon, du Cap Ferret, de Lacano, ça bouchonne un petit peu partout. Le plus compliqué, c'est quand même la jonction A660, A63. Comptez 1h10 de bouchons dans le secteur. Sur l'A64 en direction de Toulouse, 20 minutes de bouchons. Ça, c'est à hauteur de Carbonne. En région parisienne, énormément là aussi de bouchons. C'est même plutôt rare à ce niveau pour un dimanche soir. On a notamment 35 minutes de ralentissement sur l'A6 entre Grigny et Savigny-sur Orge, il y a une voiture en panne dans le secteur. Dans le nord, pour ceux qui reviennent du littoral direction Lille, ça se calme petit à petit. Comptez toujours 20 minutes de ralentissement sur la 25 entre Stenvoorde et Bailleul.
Thomas Chonner, OPC Mobilité de Radio France. Le temps ?
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, une perturbation en totale perte de vitesse va s'engager sur le quart nord-ouest du pays, donnant surtout un ciel chargé et parfois un peu de pluie en matinée de la Bretagne au Pays de la Loire et sur la basse Normandie. En fin de journée, ce ciel, plus ou moins maussade, va toucher le Poitou-Charentes, le bassin parisien et la frontière belge. Sur le Languedoc et le Roussillon, le vent, toujours en provenance de Méditerranée, va maintenir un temps gris et faiblement pluvieux, notamment au pied des Cévennes. Partout ailleurs, le soleil va rester très vaillant. En fin de nuit, il est prévu 4 à 6 degrés en bord de mer et de faibles gelées sur les régions de l'Est, avec par exemple moins 1 à Strasbourg, Metz et Grenoble, 0 sur la Franche-Comté, la Champagne et la Bourgogne. L'après-midi, malgré une légère baisse, les maximales vont rester au-dessus des moyennes, avec 12 à 14 degrés du nord-est au nord de la Loire et en Rhône-Alpes, 14 à 16 près de la Méditerranée et 17 à 18 degrés au sud de la Garonne.
19h17, on passe au sport. Avec vous Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Et le football pour commencer la 25e journée de Ligue 1 qui va se terminer ce soir dans un chaudron où le leader parisien est attendu de pied ferme.
À Saint-Étienne contre le Paris Saint-Germain, très belle affiche chez les Parisiens qui n'ont perdu qu'une seule fois, vous le savez, Yves, en championnat, c'était à Lyon, doivent tourner la page de la Ligue des Champions après le succès à Manchester United. Bonsoir Rodolphe Montagnier.
Bonsoir Jérôme.
Vous êtes déjà installé au stade Geoffroy Guichard. Les Parisiens sont toujours privés de joueurs importants, mais ils n'ont pas l'intention de baisser la garde ce soir.
6 joueurs, Neymar, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Eric Choupo-Moting, malade, Marco Verratti, soulagé en raison d'une cheville douloureuse, et Adrien Rabiot toujours écarté. Effectivement, un effectif parisien amoindri, mais Thomas Tuchel a déjà prévenu, il faut continuer à gagner, entretenir cette dynamique. Aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, voire en Coupe de France bien sûr, c'est tout le programme des Parisiens. Un mois à 8 matchs, il faut continuer à gagner, notamment ici du côté du stade Geoffroy Guichard. C'est un défi pour les Parisiens. Souvenez-vous, la saison passée, ils avaient été contraints en match nul dans les tout dernières minutes de jeu. C'était même un Stéphanois qui avait égalisé sur un but contre son camp, signé Mathieu Debuchy.
Rodolphe, Saint-Etienne, de son côté, n'a pas trop le choix. Les Verts doivent faire chuter le leader pour se rapprocher du podium.
Exactement Jérôme, surtout depuis que l'Olympique de Marseille se remet à gagner et lui a ravi la fameuse 4e place synonyme de Coupe d'Europe la saison prochaine. Surtout depuis que Reims se remet à gagner également, et voilà, ça presse derrière, il y a du monde. Montpellier bien sûr, on pense également au Stade Rennais. Il faut se remettre à gagner pour continuer à regarder vers le haut, c'est en tout cas le souhait des hommes de Jean-Louis Gasset.
Merci beaucoup Rodolphe Montagnier depuis le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne pour ce dernier match de la 25e journée qui démarrera à 21h. Alors derrière les intouchables parisiens, Lille a mis le pied sur le frein cet après-midi. Les nordistes, deuxième au classement, ont concédé le nul 0-0 face à Montpellier. Et ce n'est pas une bonne opération, François Launay.
Fin de série pour Lille. Après 5 victoires d'affilée en championnat, le club nordiste a été tenu en échec 0-0 cet après-midi à domicile par Montpellier. Le deuxième de Ligue 1 n'a jamais réussi à trouver la faille dans une défense montpelliéraine imperméable. Pourtant, les Lillois ont dominé les débats et se sont créés les meilleures occasions, à l'image de cette reprise de Nicolas Pépé, passé juste à côté des buts montpelliérains après seulement seulement 2 minutes de jeu. Mais au final, les vraies opportunités auront été plutôt rares chez des Lillois parfaitement bloqués par la deuxième meilleure défense du championnat. La libération a pourtant failli venir à la 65e minute, mais la belle frappe enroulée de Nicolas Pépé a touché le poteau droit de Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain. Malgré une pression insistante en fin de match, le LOSC a fini par se casser les dents sur le mur Hérolté. Un petit coup d'arrêt pour le club nordiste qui reste malgré tout deuxième de Ligue 1, mais qui voit Lyon revenir à 4 points derrière lui.
François Launay depuis Lille pour France Inter. Et puis ce match se déroulait d'ailleurs sous les yeux de José Mourinho, l'entraîneur portugais viré de Manchester United en décembre dernier, qui était dans le Nord pour superviser des joueurs du LOSC. Les autres rencontres de l'après-midi, il n'y a pas eu de but non plus entre Caen et Strasbourg. Bordeaux s'est imposé contre Toulouse 2-1. Et puis Reims a dominé Rennes 2-0. Un mot de foot espagnol avec la défaite surprise du Real Madrid sur sa pelouse 2-1 contre Rayron. Du coup, les coéquipiers de Karim Benzema descendent à la troisième place au classement à 9 longueurs du leader et rival, le FC Barcelone.
En rugby, c'est l'info de ce dimanche. La star néo-zélandaise Dan Carter, de retour en France.
Pour une pige de quelques mois au Racing 92, un club pour lequel il a déjà joué pendant 3 saisons. Il avait remporté le titre en top 14 en 2016 et qu'il a quitté il y a 9 mois pour rejoindre le Japon, où là aussi il a gagné le championnat il y a quelques jours. À bientôt 37 ans, bien c'est un nouveau défi pour le double champion du monde avec les All Blacks. Il arrivera en France le mois prochain et selon le président du Racing 92, il pourrait jouer son premier match contre Bordeaux-Bègles début mars.
Le Racing 92 qui jouait gros cet après-midi face à Toulouse.
Et les Franciliens ont chuté sur leur pelouse synthétique de l'Arena à Nanterre dans un match fou. Toulouse s'impose 34-29, 4 essais inscrits de chaque côté. Les Toulousains qui reprennent la tête du top 14 devant Clermont, Antoine Martin.
Imperturbable Toulousain, 106 de leurs internationaux, le leader du top 14 tient son rang à l'Arena. Les hommes du Gomola ont dominé des Racingmen trop imprécis qui ont commis beaucoup trop d'erreurs, notamment dans les 22 derniers mètres toulousains, pour prétendre à plus dans cette rencontre. Malgré un rapproché à la fin du match, impulsé par les remplaçants parisiens, l'écart était déjà trop grand à rattraper. Le Racing Métro reste en dehors des places qualificatives, 8e du top 14. Toulouse reprend lui son fauteuil de leader au profit de Clermont. On reverra ces deux équipes ici même fin mars pour le quart de finale de Coupe d'Europe. La revanche donc pour des Racing même battus. Troisième défaite de la saison à domicile pour les Ciels et Blancs. Victoire de Toulouse 34-29 face au Racing Métro.
Et ce quart de finale de Coupe d'Europe, ce sera donc avec Dan Carter sous le maillot Ciel et Blanc du Racing. Et
puis à la mi-journée, pigiste.
Il sera donc pigiste. On connaît bien dans notre corporation également ce terme. Et puis à la mi-journée, La Rochelle a repris la troisième place au classement après sa victoire bonifiée à Grenoble 28-21. Grenoble est barragiste. Dans cette 16e journée, d'ailleurs, il y a eu 5 victoires à l'extérieur sur 7 matchs. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu.
Eh oui. En ski, il a la plus mauvaise des places pour Alexis Pinturault dans le slalom, dernière épreuve des championnats du monde.
Le Français qui espérait une troisième médaille sur ses mondiaux à Åre en Suède termine 4e au pied du podium derrière un trio autrichien emmené par Marcel Hirscher, impérial sur les deux manches et qui remporte son 3e titre dans cette discipline. Pinturault avait pourtant réalisé le 2e meilleur temps de la première manche avant de commettre une petite bourde sur la 2e, mais pas de quoi gâcher totalement son plaisir sur la ligne d'arrivée.
Fier de ce que j'ai fait et déçu finalement d'être au pied du podium. Ouais. Fier parce que j'ai fait 3 courses finalement où je suis tout le temps à la bagarre pour être pour la médaille d'or, pour me battre pour la médaille d'or. Donc ça, fier vis-à-vis de ça. Après, déception étant donné qu'il a manqué pas grand-chose, ça me fait faire cette faute et derrière, avant le plat, donc ça coûte cher. Et après, automatiquement, je finis en plus à 15 centièmes du podium. Donc voilà, c'est comme ça. Après, de toute façon, il fallait jouer et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets.
En revanche, c'est une déception pour Clément Noël, dont on vous avait parlé ce matin dans la matinale de France Inter. Qui avait brillé cette saison sur les pistes de Wengen et Kitzbühel. Il ne finit que 7e de ce slalom. Malgré tout, le bilan tricolore est plutôt bon sur ces mondiaux avec 3 médailles. L'argent sur le Super G pour Johan Claret et l'or de Pinturault en combiné qui a rajouté le bronze sur le géant. Pinturault qui s'impose comme le patron du ski français selon le directeur technique national Fabien Saguez.
Il a vraiment franchi un cap, il était déjà très polyvalent, très toute discipline. Maintenant qu'il est vraiment en concurrence directe avec les meilleurs en slalom, ça renforce encore son potentiel en termes de polyvalence. Donc oui, effectivement, c'est le vrai leader de cette équipe.
Le DTN Fabien Saguez au micro de Bruno Cuaz pour France Inter. Et puis les pistes enneigées de Suède, toujours pour la 2e étape du championnat du monde de rallye. Et c'est l'Estonien Ott Tänak qui remporte l'étape et qui prend du coup la tête au classement général, détrônant Sébastien Bastien Augier qui termine seulement 29e.
Enfin, un titre pour Gaël, mon fils. C'est du tennis, bien sûr. Le Français s'est imposé à Rotterdam.
Cela faisait un an, Yves, qu'il courait après une victoire en finale. C'est donc fait victoire en 3-7 contre le Suisse Stan Wawrinka, 6-3-1, 6-6-2. C'est le 8e titre de sa carrière, Gaël Monfils.
On a fait un bon travail avec le coach pour l'instant. On a eu des objectifs qui sont réalisés là, sur ce tournoi-là, sur certains objectifs. Maintenant, il faut toujours continuer à travailler. On espère avoir d'autres occasions pour gagner d'autres titres.
La saison de Formule 1, c'est dans un mois, mais dès demain, les écuries vont démarrer leur séance d'essai sur le circuit de Barcelone. C'est une tradition, ce choix de la Catalogne et son climat tempéré pour tester les nouvelles monoplaces. Et on aura un œil attentif sur Renault, la marque française, qui a de grosses ambitions cette saison. Elle veut rivaliser avec les Cador, Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et elle a engagé Cecilia Arbona, le pilote australien Daniel Ricciardo.
29 ans, 29 podiums, 7 victoires en Grand Prix. Depuis l'école primaire et ses débuts en karting, Daniel Ricciardo roule en s'amusant. Surnommé Banana Dan, le pilote est effectivement connu pour son large sourire et sa bonne humeur. Et c'est sur ce garçon jovial, en fin de contrat chez Red Bull, que Renault a choisi de miser. Daniel Ricciardo.
Rejoindre cette écurie pour lui donner une nouvelle dimension, ça signifie beaucoup pour moi. L'idéal serait d'intégrer le top 3. Et ce qui me rend très heureux, c'est d'avoir l'opportunité de travailler avec Alain Prost, d'écouter ses conseils. C'est une icône et je suis vraiment content de me perfectionner auprès de Monsieur Prost.
La marque française, qui s'est classée quatrième au palmarès des constructeurs en 2018, entend poursuivre sa trajectoire ascendante. Cyril Abitboul, directeur général de Renault F1 Team.
En Formule 1, depuis 41 ans qu'on en fait, on n'a jamais réussi pleinement à avoir la place que l'on devrait avoir. Alors, on est français dans un univers quand même très britannique. On est un constructeur généraliste dans un univers de premium. Les gens nous voient toujours avec un mélange de respect, de méfiance, mais quand même aussi un peu de hauteur et d'irrévérence.
Renault a investi plus de 50 millions d'euros pour rénover son usine anglaise d'Enstone. C'est sur ce site, en pleine campagne, qu'a été conçu son dernier bolide, la RS19, qui fera ses premiers tours de piste demain à Barcelone.
Allez Yves, si vous appréciez les images spectaculaires de bateaux volants sur des plans d'eau magnifiques, eh bien il faut suivre une nouvelle compétition de voile créée cette année.
Elle s'appelle SailGP. La première étape s'est terminée ce week-end en Australie, dans le cadre idyllique de la baie de Sydney.
C'est une sorte de ligue mondiale qui se court sur de petits bateaux volants, les mêmes que ceux de la dernière Coupe de l'Amérique aux Bermudes, mais améliorés pour battre des records de vitesse. Alors, 6 équipes nationales ont été créées, dont une française avec comme leader Billy Besson, un bien connu dans le milieu de la voile olympique. Billy Besson, heureux de naviguer sur ces Formule 1 des mers.
Les calculs qui ont été faits avant, en Coupe de l'Amérique, étaient de 42 nœuds à l'époque. Et là, normalement, ils ont prévu 55 nœuds, quasi 100 km/h. Et c'est le but annoncé. Et je pense que ça risque d'être un spectacle assez hallucinant. En termes de moyenne, par exemple, pour préparer une manœuvre, à l'époque, les bateaux mettaient 15 à 17 secondes. Là, en 3 secondes, on peut décider de virer, quoi. On peut décider de faire une manœuvre. Donc tout va beaucoup plus vite, donc il faut essayer d'être à la hauteur du bateau maintenant. On est vraiment protégé un peu partout, casqué, on a des bouteilles d'oxygène avec nous au cas où si le bateau se retourne. On est accroché au bateau aussi, on a un lien qui permet de pas tomber à l'eau. Tout a été mis en œuvre avec l'organisation en tout cas pour essayer de prévenir au maximum des accidents. Cette notion de sécurité a été vraiment prise en compte très professionnellement.
Et voilà, les Français ont terminé 5e de cette étape australienne. La finale de ce circuit aura lieu à Marseille. Vous pourrez y aller en septembre.
C'était le journal des sports de Jérôme Val.